Alors, donc, je m'appelle Stéphane Titeka, j'ai créé cette compagnie il y a maintenant 5 ans. Mon rôle est le rôle d'un directeur artistique, c'est-à-dire d'impulser des projets et de voir avec les différentes équipes comment on peut les réaliser. Voilà.
Est-ce que vous pouvez maintenant présenter la petite compagnie dans son ensemble ? Alors, vous venez de dire qu'elle a été créée en 2012.
Ouais, c'est ça.
Comment elle a évolué depuis en 5 ans ? J'imagine que... il y a eu beaucoup d'évolutions.
Oui, bien sûr, c'est une compagnie qui a bougé beaucoup. On a créé un premier spectacle en début 2013 qui s'appelait Le Fantastic McCormick, qui est un spectacle jeune public qui a beaucoup tourné, qui continue à exister et à tourner. Et puis on crée un autre spectacle à l'automne 2013 qui s'appelait Bou, qui est un spectacle encore jeune public en direction plutôt des bibliothèques pour donner envie de livres aux enfants, d'ouvrir les livres et les rendre vivants. On a ensuite créé une autre version de Bou, puis on avait créé un spectacle qui s'appelle Hippocrate le pirate, et puis on a fini par créer en 2015 un spectacle qui s'appelle Le choix des âmes, qui était le premier spectacle tout public à destination des grands et des petits, mais plutôt des grands, qui est le spectacle pour lequel je suis venu vous voir aujourd'hui, qui a été effectivement créé le 21 mai 2015 et qui va fêter sa 100e ce week-end, le 17 novembre, à la salle Oesia, à Notre-Dame-d'Oé, à 20h30.
Effectivement, on y reviendra en seconde partie d'émission, plus précisément sur cette pièce de théâtre. Qu'est-ce qui vous a amené finalement à créer une compagnie de théâtre ? Parce que c'est pas spécialement commun. Est-ce que vous étiez un passionné qui a décidé de franchir le pas de créer une compagnie ? Ou comment ça s'est fait un peu ?
En fait, bon, moi je suis comédien et à un moment donné, on travaille avec plein de compagnies. Le principe de l'intermittence, c'est qu'on travaille avec plein de compagnies. Puis à un moment donné, il y a eu le choix de pouvoir se dire j'ai envie de travailler sur une ligne artistique qui est un peu toujours la même. Enfin, j'ai envie de travailler, de tracer ma ligne artistique et de trouver... une cohérence dans mon travail, et même si je continue à travailler avec plusieurs autres compagnies, j'ai eu envie vraiment de créer cet outil et cette compagnie qui a fédéré du monde autour de moi depuis quoi.
La question qui tue maintenant, pourquoi ce nom ? Pourquoi la petite compagnie ?
Parce que c'est encore plus petit qu'une petite compagnie, et puisque c'était aussi un jeu de mots avec le début de mon nom, puisque voilà. Donc c'était Tite pour Titeka, et surtout encore plus petit qu'une petite.
Oui, c'est vrai que du coup, ça fait vraiment la contraction de petite. Alors, en fouillant sur votre site internet, parce que j'ai l'habitude de faire mes petites recherches et d'essayer de faire l'espion.
Je suis mort de trouille là.
Non, faut pas, je suis pas si terrible que ça. Vous dites que la mission finalement de la petite compagnie, c'est de créer, faire tourner tout type de spectacle, etc., dans un registre populaire. Est-ce que vous pouvez me décrire ce que vous entendez par registre populaire ?
Bah, c'est simple, ce qui est populaire, c'est que c'est accessible à tous, a priori, c'est-à-dire c'est accessible à la masse, et je trouve que le terme de masse n'est pas du tout un terme péjoratif, c'est-à-dire que l'idée, c'est de dire nos spectacles sont accessibles à tous, sous réserve qu'on ait envie d'aller les voir, mais de pas se renfermer entre théâtreux, ce qui est quand même une tentation qui peut exister. C'est-à-dire que quand on a commencé à créer des jeunes publics, c'était vraiment l'idée de se dire on a conscience qu'à chaque fois qu'on monte sur le plateau, on est le premier spectacle d'un gamin qui sera peut-être un futur comédien, qui va peut-être tomber complètement amoureux du théâtre, comme ça m'est arrivé quand j'étais gamin. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire... Enfin, il y a une vraie responsabilité par rapport à ça, de la même manière que quand on fait du tout public... on est aussi forcément le dernier spectacle d'au moins un spectateur dans la salle qui décédera plus tard. C'est moins gay, mais c'est une réalité. Et autant partir avec des belles images, si on peut le faire. Non, ce que je veux dire simplement, c'est que le populaire, pour moi, c'est un terme noble qui dit effectivement, on s'adresse à tous.
C'est vrai que vous dites aussi faire rire et faire rêver. Finalement, c'est ça le théâtre pour vous ? C'est essayer de faire passer les émotions finalement aux spectateurs ?
Ouais, même les choses de la compagnie dit faire rire, faire rêver, faire réfléchir. Effectivement, c'est de dire on va donner des émotions, qu'elles soient tristes ou heureuses. On va essayer de développer l'imagination. Et si après le spectacle, malgré ça, on peut éventuellement se dire tiens, j'ai des choses à sortir de là et qu'est-ce que j'aurais fait moi ou qu'est-ce que ça m'implique, bah, c'est encore mieux.
Vous-même, vous avez été touché finalement par ces émotions petit. Comment vous êtes venu au théâtre dans l'enfance ?
Ah, c'est une histoire assez rigolote. C'est que J'ai 7 ans, comme beaucoup de parents, ma mère m'emmène à Noël voir les illuminations à Haussmann. Ça m'éclate pas plus que ça. Par contre, elle m'emmène à la Comédie Française voir l'Avare et il paraît que je sors de la Comédie Française en disant je veux faire ça. Et puis je me suis tenu, j'ai toujours après été dans les divers cours, ateliers, conservatoires, cours à Paris et puis voilà.
Vous parlez du coup à tout le monde dans un registre populaire, on vient de le définir. Qu'est-ce que ça signifie en termes de pièces? Ça veut dire que les pièces que vous créez sont visibles de tous ou est-ce qu'il y a des pièces qui sont spécialement faites pour les jeunes, pour le jeune public, d'autres pour les adultes? Comment ça se passe un peu parmi vos pièces?
Alors après, il y a des sujets qui sont forcément pas accessibles aux plus jeunes. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le degré de complexité du propos fait que le plus jeune ne peut pas le récupérer. C'est le cas du Choix des âmes où en dessous de 10 ans, on dit bon bah c'est pas forcément pour vous. Même si on a des spectateurs un peu plus jeunes, a priori, c'est en dessous de 10 ans, c'est compliqué. J'ai la particularité d'être l'auteur de mes textes pour la plupart. Mon souhait, c'est que quand je fais un jeune public, c'est que ce soit pas un jeune public, mais un spectacle familial, c'est-à-dire que on soit pas segmenté et on soit pas en train de faire du vocabulaire un peu simpliste en disant on va parler comme à des débiles ou aux mômes parce que c'est des mômes. Au contraire, moi je crois qu'il faut parler intelligemment comme des petites grandes personnes aux enfants et en même temps se dire que on va permettre aux grands de pas être exclus non plus, c'est-à-dire qu'effectivement bah on y va en famille. Et à partir du moment où il y a toujours plusieurs niveaux de compréhension, et à partir du moment où il y a plusieurs niveaux de compréhension, ou à partir du moment où les enfants s'éclatent et que les parents se disent ah ouais c'est ça me fait rire aussi ou ça me parle aussi, eh ben les parents sont avec les enfants, ils font pas juste le geste de je t'emmène voir un spectacle et puis après je regarde sur mes notifs Facebook pendant tout le spectacle. D'abord parce qu'en plus ça nous casse les pieds la lumière bleue dans les théâtres, alors je dis au passage si vous croyez être malin parce que vous avez coupé le son et que vous regardez vos portables, ça gonfle les comédiens, ça gêne tout le monde la lumière bleue dans les théâtres, moi c'est insupportable. donc ça veut dire qu'on fait quelque chose ensemble et qu'après il se passe des choses en famille ensemble, voilà, c'est un lien.
C'est bien de le préciser, mais d'ailleurs, c'est pareil en radio. Hein. Parfois, il y a des invités qui regardent un peu les réseaux et ça m'agace.
Oui, mais effectivement... ça vous agace, mais en radio, on ne le voit pas, alors que nous, sur scène, ça nous gêne.
Oui, effectivement. C'est vrai.
C'est-à-dire que ça gêne les publics tout autour parce que ça diffuse une lumière vieux sur tout le noir qu'on essaie de créer.
Et puis, il faut aussi une concentration beaucoup plus forte qu'en radio. Oui. Et puis, bon, c'est deux métiers différents, évidemment, mais c'est vrai que ça peut gêner la concentration des acteurs. Vous faites aussi des ateliers pour enfants.
Ouais, alors
est-ce que vous pouvez m'expliquer
pour enfants et pour adultes, en fait, la compagnie qui est donc en résidence. Alors le terme compagnie en résidence, ça veut dire que on a un partenariat avec la mairie de Chambray-les-Tours. La compagnie est en résidence, et puis le souhait de la mairie de Chambray, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'intéressent au théâtre, et c'est aussi notre travail. Donc c'est qu'effectivement, on a mis en place un certain nombre d'ateliers qu'on met depuis septembre, puisqu'on est à Chambray depuis un an maintenant, mais le temps que qu'on soit calé sur les vacances scolaires et le calendrier scolaire, on a démarré début septembre. On a fait aussi des stages aussi pendant les vacances, qui s'adressent à tous, petits et grands. Et puis, oui, notre but, c'est essayer de donner ce virus qui nous a été inoculé, nous, depuis quelques années, le donner aux enfants et aux grands, d'ailleurs.
C'est vrai que j'ai oublié de le préciser tout à l'heure en présentant la petite compagnie, c'est à Chambray-les-Tours. Combien vous êtes dans la compagnie au total?
Alors c'est un peu compliqué de répondre directement à cette question-là parce que le travail de l'intermittence, c'est quand même de se dire on travaille sur un spectacle et puis on travaille avec d'autres, et donc il y a pas de notion de propriété de salariat comme il peut exister dans des conditions de travail classiques. Non, il y a des gens qui se retrouvent sur des projets. Donc il y a une dizaine de personnes qui travaillent régulièrement pour la compagnie. Il y a notamment de jeunes comédiens qui travaillent à la fois sur des spectacles et plus sur tout ce qui est TAP, atelier, etc. Ils sont deux. Il y a une personne qui est actuellement en service civique qui est sur toute la production. Il y a 7 ou 8 comédiens qui tournent tout autour en fonction des productions. Voilà. Et surtout, parce que je parle de comédiens, mais des techniciens qui sont des artistes indispensables au fonctionnement d'une compagnie.
Au niveau des pièces... Alors, on va parler tout à l'heure en deuxième partie, je le rappelle aux auditeurs qui nous écoutent, on va parler de la pièce Le Choix des âmes qui fête sa centième représentation le vendredi 17 novembre. Mais cette pièce, bon, c'est, vous me l'avez bien précisé en antenne, c'est autour de la Première Guerre mondiale, mais ça ne traite pas de la bataille de Verdun, qui est le cadre finalement de cette pièce. C'est finalement quelque chose de plus philosophique, un rapport entre deux hommes, deux ennemis sur le champ de bataille. On y reviendra tout à l'heure, mais vous avez également fait le spectacle McCormick, c'est ça ?
Fantastique McCormick, oui.
Oui, pardon, Fantastique McCormick, fin septembre, au bénéfice des Antilles. Est-ce que c'est une façon de vous engager, vous, de faire
non,
ça ?
Non, c'est une façon de ne pas être dégagé, plus exactement, parce que s'engager, on est tous engagés à un endroit ou à un autre et on fait des choses, voilà. La compagnie, depuis sa création, tous les ans, offre au moins une fois un spectacle à des causes humanitaires qui nous parlent. On ne fait pas forcément de publicité là-dessus. La problématique qui s'est mise en place, parce que là, en fait, vous n'êtes pas le premier à me poser la question par rapport à l'histoire des Antilles, c'est qu'en fait, on s'est retrouvé face à cette urgence de communiquer énormément, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Et là, c'est chouette, parce que justement, quand on a un interlocuteur comme la mairie de Chambray qui est à l'écoute de ce qu'on propose, etc., ils ont dit tout de suite, banco, on y va. Et donc, le jeudi soir, à 18h, on a dit, on fait quelque chose pour le samedi suivant. Donc, faire quelque chose, mais qu'il n'y ait personne dans la salle, c'est compliqué. Donc, il a fallu mobiliser en 9 jours, puisqu'on était déjà le soir du jeudi. Il a, en 9 jours, suffisamment de choses pour pouvoir réussir à faire venir du monde. Et c'est pour ça qu'on a fait beaucoup de communication autour de ça. Et je suis très, très heureux et très fier du partenariat qu'il y a eu avec la mairie de Chambray et avec l'association Chambray Solidarité, et qui a permis, grâce à cette dinguerie pendant 10 jours d'être comme des fous, de déplacer plus de 100 personnes et de récolter 1300 euros pour les gens des Antilles. Mais c'est quelque chose qui est... Enfin, je veux dire, ça questionne à quoi sert un artiste dans la cité, le cité dans le sens premier grec du terme, mais à quoi ça sert un artiste dans la cité, à quoi on sert en fait, simplement.
Pour vous, ça paraît normal en fait de donner aussi une partie de son temps à ses œuvres de charité et puis en don comme ça.
Mais en fait, je donne pas de leçons, chacun fait ce qu'il peut et ce qu'il veut, etc. Mais chacun s'engage sur un truc différent. Il y en a qui se disent, il faut absolument lutter contre les mecs qui mettent des pesticides dans les poireaux parce que je veux absolument manger un poireau bio. Il y en a qui disent, moi, je veux absolument lutter contre les violences homophobes. C'est pas excluant. Je peux pas dire, il y a ça, ça, ça ou ça. Chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il peut. Puis il y a des gens qui disent, ouais, moi, je soutiens les trucs, mais en même temps, j'ai pas le temps, je suis crevé, machin, j'ai pas envie, et je fais un chèque dans mon coin et je me dédouane pas de faire des chèques sur des trucs qui me branchent à titre perso. Après, il y a un truc, c'est que je peux faire un chèque pour les Antilles en disant je suis quand même vachement triste pour ce qui arrive pour ces gens. Sauf que le chèque que je vais faire sera forcément moins élevé que ce que pouvoir fédérer du monde autour de ça, de cette cause et de se dire finalement on a le pouvoir de donner une après-midi de son temps, une journée de son temps, et que cette journée qu'on donne soit efficace et serve à quelque chose. Et là, je pense que tous les gens qui ont la possibilité de le faire ne se posent pas la question, le font. Enfin, c'est pas très extraordinaire comme démarche. Ce que je veux dire, c'est que ça se voit beaucoup. Ça se voit beaucoup parce qu'on fait un truc très éclatant sur une journée. Mais moi, je pense plutôt à tous les bénévoles qui sont dans toutes les assos tout le temps et qui font vraiment des choses au jour le jour. On les voit pas. Ils font le vrai boulot. Et voilà. Et moi, je fais juste une journée de temps en temps. Franchement, c'est juste le minimum, quoi.
Du coup, c'est une fois de temps en temps, une fois par an, c'est ça, des journées comme ça.
C'est minimum une fois par an en fait, minimum, et ça dépend de mes dispos et surtout de voilà. J'ai rencontré une famille dans ma tournée en Normandie avec un enfant qui a une maladie orpheline. Ça, je leur ai dit, trouvez une salle, faites quelque chose, on va y arriver, on va faire quelque chose. Et du coup, ouais, ça sera peut-être pas dans un an, mais ça sert à quelque chose, quoi. C'est juste le fait d'être des êtres humains en fait, c'est autre chose, c'est rien d'autre que ça.
J'ai une à propos de ça, plus ou moins, j'ai une citation à vous soumettre de William Shakespeare et vous allez me dire ce que vous en pensez. Le monde entier est un théâtre et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs et notre vie durant nous jouons plusieurs rôles. Qu'est-ce que vous pensez de cette citation ? Est-ce que finalement la vie, alors certes c'est philosophique un peu, mais est-ce que la vie c'est du théâtre ?
Ben non, mais le théâtre, c'est la vie, par contre.
Bonne réponse.
Non, mais c'est d'accord, fait simplement, le théâtre, c'est comment on remet sur un plateau des extraits de vie. Comment on fait croire que je suis un tel ou un tel et que je fais ceci ou cela. Cette citation de Shakespeare, elle est ultra connue et elle est très intéressante. C'est simplement de dire, effectivement, on est tous... est-ce qu'on est le même si on est avec sa compagne ou avec son chef? Est-ce qu'on est... Voilà, non, on réagit pas de la même manière. Est-ce qu'on est le même si avec... on est avec un prof ou avec un pote, on est non. Est-ce qu'on est le même si on est-ce que on est exactement dans le même rôle nous deux quand on discutait de manière un peu informelle alors que les micros étaient coupés ou alors que là on est face au micro et non on n'est pas le même. On joue pas un rôle mais en tout cas
on s'adapte à la situation.
Et voilà, c'est la même chose.
Donc sur une pièce, enfin sur une pièce de théâtre et sur scène, on se donne aussi ce rôle-là et on essaye d'être dans sa bulle pour incarner le rôle justement.
Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça. On a fait le travail en amont pour être déjà dans le rôle. Non, mais simplement le travail sur scène, c'est de recréer de la vie. Donner le cinéma maintenant passe quasiment que par les effets spéciaux pour recréer un truc qui n'existe pas. Notre but, nous, c'est qu'on n'a pas les effets spéciaux et faut je pense que la démarche doit être une démarche de véracité, c'est-à-dire qu'effectivement on sait qu'avec le temps on a des trucs pour il y a des trucs de comédien, des ficelles pour faire croire que on est habité par quelque chose. Non, dans la réalité c'est que, et c'est la démarche du choix des âmes, c'est-à-dire que la démarche c'est de travailler sur quelque chose où on fait pas semblant, on y va, on est vraiment dans les personnages et on joue les trucs, et c'est ce qui a touché, c'est ce qui fait qu'il nous arrive cette aventure incroyable, c'est ce qui a touché le public, c'est qu'on ment pas quoi.
Je vous propose un quiz aujourd'hui spécial Première Guerre mondiale. Je mets le petit jingle et je vous pose quelques petites questions. C'est parti. Est-ce que vous êtes prêts ?
Oh là là, oui.
Alors, première question. La Première Guerre mondiale a eu comme point de départ, en tout cas, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand d'Autriche le 28 juin 1914. Mais qui l'a assassiné ?
C'était un anarchiste, je ne rappelle plus son nom. Je ne me rappelle pas de son nom.
C'était effectivement un nationaliste serbe de Bosnie, en fait, qui s'appelait Gavrilo Princip.
Ouais, c'est compliqué.
Puis c'est vrai que la situation à l'époque était assez compliqué.
En tout cas, expliquer le jeu des triples alliances et de la triple entente qui fait qu'on déplace la guerre. Voilà.
Exactement, parce qu'en fait, il a mis l'étincelle, il a mis le feu aux poudres plutôt, et la Russie après a déclaré la guerre à l'Autriche-Hongrie, qui elle-même, l'Allemagne après est rentrée en guerre parce qu'elle était alliée avec l'Autriche-Hongrie, etc. C'est toute une histoire d'alliance. Qui surnommait-on pendant la Première Guerre mondiale le Baron Rouge ?
Oh là là, je suis nul. Le Baron Rouge, j'en sais rien. C'est un rapport avec le début de l'aviation dans la guerre mondiale, c'est ça ?
Exactement, exactement.
Je sais pas son nom, non.
Alors, il s'appelle Manfred von Richthofen. Mmh. C'était un Allemand, l'un des plus grands, entre guillemets, aviateurs de la Première Guerre mondiale, qui aurait plus de 80 victoires aériennes à son compteur. Il faut le dire aussi, à l'époque.
C'est surtout le début de l'aviation. Voilà, c'est le moment où l'aviation devient une... C'est les monoplans à l'époque, c'est le début de l'aviation comme un outil de guerre.
Exactement, exactement. C'est bien de le préciser. D'ailleurs, von Richthofen avait un avion rouge parce qu'il refusait en fait d'avoir un avion comme les autres. Même s'il était camouflé, il préférait avoir son avion rouge, d'où le surnom Baron Rouge. Alors maintenant, ça touche plus particulièrement votre pièce de théâtre, bon, on en reparlera. Mais quand a démarré la bataille de Verdun ?
Ouais, c'est en 29 octobre de 1916.
Alors moi j'ai du 21 février au 19 décembre 1916.
Ouais, c'est parce que la bataille, oui, d'accord.
Alors peut-être qu'il y a plusieurs phases.
La bataille décisive, parce que Verdun ça dure un peu, mais la décisive c'est le 29 octobre.
Effectivement. On le précise, 700 000 morts environ, en tout cas 700 000 victimes. Une bataille qui a quasiment été inutile, puisque...
Comme la plupart, des batailles qui se passent entre 14 et 16.
Effectivement.
C'est pour ça aussi que ça se passe là, le choix des âmes. C'est-à-dire qu'en fait, ça se passe à un moment donné où ils partent au 31 août en disant on est là à Noël, et puis en 14. Et deux ans plus tard, il y a eu... l'équivalent de 800 mètres qui a bougé sur la ligne de 14 au moment de Verdun.
Et
il y a eu des millions
de morts
et c'est complètement absurde et surtout on voit pas la fin. J'ai l'habitude de dire quand je fais de l'action culturelle avec les enfants, de dire imaginez vous avez 4 heures de maths. Au bout de 3h50, vous dites, ouais, c'est bon, il reste 10 minutes, c'était dur, mais il reste 10 minutes. Et si au bout de 3h50, vous savez pas que vous avez 4 heures de maths, vous savez pas combien de temps ça va durer et vous êtes comme des fous. Et c'est ça le point de départ de l'action du choix des hommes, c'est-à-dire qu'on prend des hommes dans un moment où ils ont plus du tout d'espoir.
En 1940, Seconde Guerre mondiale, il y a eu une deuxième bataille de Verdun, mais là, Verdun est tombé beaucoup plus rapidement. Est-ce que vous savez en combien de temps est tombé Verdun après l'invasion pardon, allemande ?
Bah, de toute façon, la France est tombée en 3 semaines, donc Verdun est dû tomber un peu moins de 3 semaines. Ouais.
Et bah, c'est même beaucoup plus rapide que ça, en moins de 24 heures.
Ouais, bah,
donc pour le coup, une trentaine d'années avant, 20-30 ans avant, on a envoyé des hommes à la boucherie et plus tard, les conditions de guerre ont complètement changé. Dernière petite question, un peu plus gaie cette fois. Il y a eu des trêves de Noël en 1914 sur le front, notamment de l'Ouest, qui a valu un film d'ailleurs, Joyeux Noël. Est-ce que vous savez, est-ce qu'il y a eu d'autres trêves, pardon, je vais y arriver décidément, après cette
date-là ? Je pensais que vous alliez me demander le repas, moi, en fait, s'il y avait du foie gras à Verdun.
Ah non, non, non.
Non, je sais, effectivement, il y a eu pas mal de moments qui ont été des moments de fraternisation avec l'ennemi.
Effectivement.
Et on a beaucoup parlé, puisqu'en fait, le choix parle de deux hommes qui se retrouvent coincés dans ce trou d'obus et qui sont obligés de se parler pour ne pas mourir. Et en fait, c'est pas de la fraternisation dans ce cas-là, puisque c'est plus que ça. C'est juste, j'essaie de comprendre l'autre. L'objet de la pièce, c'est de se dire, ces deux hommes qui sont ennemis, qui n'ont rien à voir à faire ensemble, il y en a un qui est allemand, musicien, violoncelliste, ça fait le tour de l'Europe, l'autre est français, est jamais sorti de sa ferme, est un peu limité intellectuellement, il est même franchement débile, puisqu'il a l'habitude de dire Mans a dit, j'ai été étranglé du cordon à la naissance, ce qui fait qu'il est un peu lent à comprendre. Ils se retrouvent tous les deux là, et ils sont là pour donner le pire d'eux-mêmes, à savoir, ils ont leur ami en uniforme en disant tape sur le mec qui est en blanc, tape sur le mec qui est en noir, et puis tout d'un coup ils se retrouvent coincés dans ce trou d'obus, et si ils se parlent pas, ils crèvent tous les deux. Donc ils sont obligés d'aller au-delà de leurs a priori, au-delà de ce qui fait qu'on leur a dit il faut que tu ailles tuer l'autre pour se sauver. Et ils ont besoin de comprendre l'autre. Et du coup, c'est vraiment la base. Ça s'appelle une fable humaniste. C'est vraiment la base. C'est le point de départ du choix. Et pourquoi le trou et pourquoi Verdun? Parce que justement, ce qu'on expliquait tout à l'heure par rapport à cette histoire d'espoir, et c'est l'arène dramatique d'une histoire d'homme. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui marche, c'est parce que c'est une histoire d'homme. C'est plus que ce qui explique mes piètres réponses sur le questionnaire d'histoire. Je n'avais pas passé le bac depuis quelques années. Je suis très heureux de l'avoir raté à nouveau. Merci beaucoup.
Non, je ne vous décerne pas de notes. C'était juste en bonus. Non, et puis vous n'avez pas du tout été ridicule sur le quiz. Vous venez du coup de parler un peu, d'introduire la pièce Le Choix des âmes qui va fêter sa 100e représentation vendredi 17 novembre. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous est venue l'idée de ce spectacle ? Est-ce que c'est la guerre et ses relations entre hommes pendant cette période trouble vous a marqué ?
Non, c'est juste ce que je venais de dire. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de parler de deux hommes. En fait, le théâtre, c'est quoi ? C'est de pouvoir trouver une arène dramatique, un lieu où ça peut se passer et qui peut exacerber un sentiment. Là, en l'occurrence, c'est de se dire j'aurais très bien pu parler des relations qui peuvent se passer, je sais pas, du racisme, des gens qui n'ont pas envie de voir l'autre parce qu'il est de notre couleur, ou des pauvres et des riches, enfin des choses comme ça. Non, ce qui m'intéressait, c'était de voir deux hommes qui étaient différents, de décaler le propos suffisamment pour qu'on puisse le comprendre et en même temps en restant fidèle, parce qu'effectivement, j'ai fait des recherches sur 14-18 parce qu'il n'était pas question que les choses soient déconnantes. Au niveau historique, tout est vérifié à la virgule et j'ai fait beaucoup de lectures. Non, l'idée c'était de se dire comment on voit évoluer ces hommes, comment on va voir ces hommes qu'est-ce qui va faire que tout d'un coup ces deux gars qui ont rien à faire ensemble vont réussir à se parler, parce qu'en fait le truc est simple, comme ils sont coincés dans ce trou, la seule manière de sortir du trou et de pas mourir dans le trou, c'est de se faire la courte échelle. Mais pour faire la courte échelle à l'autre, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut qu'il y en ait un qui accepte d'être en bas et qui fasse confiance à l'autre pour qu'il lui sorte du trou. Et ça, c'est une situation dramatique qui permet de développer le propos.
Alors, vous jouez cette pièce parce que vous êtes également acteur dans cette pièce. Oui. Deux hommes avec Alexis Dessau, c'est ça?
Ouais, tout à fait, Alexis. Ouais,
qui... Alors, qui fait quel rôle? Vous interprétez le...
Moi, je fais le débile, moi, je sais pas pourquoi. Moi, je fais le débile et donc
alors,
Raoul,
le poilu français, pour
voilà,
le coup.
Voilà, Raoul, ouais. Et Franz, c'est Alexis Dessau qui le fait.
C'est venu naturellement, ces deux rôles, ou vous êtes concerté
Alors, non, ouais, c'est venu... Enfin, au départ, bon, il faut savoir qu'Alexis est parisien. Pas mal de gens le connaissent parce qu'il a fait pas mal de télé aussi. Entre autres choses, il a aussi beaucoup fait théâtre. Et donc, c'est une commande d'Alexis et d'un autre comédien, une commande à un auteur que je suis. Et puis, les choses font que l'autre comédien, bah, finalement, ça s'arrête. Et puis, que je décide de le produire via la petite compagnie. Et puis, que finalement, je reprends le rôle. Et puis, qu'on part ensemble. Et ce qui est génial avec cette aventure, c'est que rien n'aurait dû exister tel que ça existe, rien n'aurait dû se passer, et c'est sur cette somme de difficultés au départ qu'on finit par arriver dans un truc où on a un amour incroyable du public qui nous suit depuis deux ans, avec des histoires incroyables, avec deux Avignons qui ont été des grands succès, sur lesquels on a vite vécu des choses incroyables, où on a croisé des gens, y compris des gens qu'on peut... des grands messieurs du métier que j'admire profondément et qu'on dit des jolies choses. On a été, grâce à Avignon, aller jouer ce spectacle à l'autre bout du monde, jusqu'à Hong Kong. Enfin, c'est des choses qui sont incroyables. Et puis, sans représentation, sur des compagnies comme les nôtres, c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'en fait, ça a l'air de rien pour les gens qui sont pas dans le théâtre, mais c'est très rare. Des fois, on monte des projets, puis on joue 5 fois, 10 fois maximum, et puis ça s'arrête, parce qu'en fait, le principe, c'est que un comédien sans public, c'est juste un schizophrène. Donc, si on n'a pas le public qui a envie de nous voir, et si on nous propose pas des salles, des lieux pour jouer devant du monde, si les gens sont pas intéressés par ce qu'on fabrique, eh ben, on est juste tout seul et donc un schizophrène.
Vous avez évoqué les endroits où vous avez joué cette pièce. Vous l'avez joué quasiment partout en France, et notamment à Verdun et aussi à l'étranger, à Hong Kong. C'était un festival de théâtre, c'est ça?
Ouais, c'est
Hong
ça.
Kong,
ouais,
c'est... Vous avez obtenu un prix d'ailleurs pour cette pièce,
ouais,
là-bas.
Best drama, comédie, un truc comme ça.
Meilleure comédie dramatique.
Ouais, c'est ça.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, c'est assez fou de jouer finalement cette pièce aussi loin.
C'est incroyable, c'est une aventure incroyable. Et en plus de ça, et on reparlera de l'humanitaire du coup là-dessus, c'est qu'en plus de ça, tout ce que nous on a fait avec les autres, alors on a eu la chance en plus de partir avec d'autres compagnies parisiennes qui étaient extrêmement capées et qui avaient des spectacles magnifiques. On était globalement... un peu les seuls à pas avoir de Molière dans l'histoire, et vraiment des spectacles magnifiques, et déjà j'en profite pour faire un peu de pub. Il y aura notamment un spectacle qui s'appelle Adieu Monsieur Hoffman, qui est mis en scène et écrit par Jean-Philippe Daguerre, qui va être au Petit Montparnasse à partir du début janvier. C'est vraiment magnifique, allez-y d'urgence, et je vous dis d'ores et déjà dès maintenant que ce spectacle aura le Molière, j'en suis certain, c'est magnifique. Bref, tout ça pour vous dire qu'en fait c'était une aventure incroyable avec des gens géniaux, et en plus de ça, tout ça, ça a permis de récolter 80 000 $ au profit d'une association qui s'appelle Pour un sourire d'enfant, que je vous invite aussi à googliser. C'est vraiment un truc incroyable qui permet à des gamins cambodgiens dans la rue de les prendre, de leur trouver un lieu pour dormir, pour manger, et de leur apprendre, de les amener à l'école, en fait, de les nourrir et de les amener à l'école.
Alors, la 100e représentation, ça va se passer le vendredi 17 novembre.
Vendredi, donc.
Voilà, ben oui, c'est vrai, vendredi.
Vendredi.
Effectivement, je vois plus le temps passer, décidément.
Mais non.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment va se passer cette soirée? Et j'ai vu que vous aviez prévu des surprises.
Ouais, il y a plein de choses. En fait, la soirée normale, c'est de dire on va voir le spectacle. Sauf qu'on a envie de rajouter des choses au spectacle.
Pour marquer le coup.
Oui, on a vraiment envie de faire la fête avec les gens qui seront là. Alors, je sais déjà que ça démarre bien au niveau des réservations. On est bien suivi depuis le début. Et là, effectivement, je crois qu'il y a déjà plus de 200 personnes qui ont réservé. En fait, on a fait des choses. J'ai pas envie de donner les éléments parce que c'est vraiment des surprises. Ce que je peux dire, c'est que tout le monde repartira avec quelque chose d'abord, qu'il y aura un vrai échange après, qu'il y aura un vrai truc en plus du spectacle, et qu'on aura autour de nous tous les gens qui ont participé de près ou de loin à ce spectacle. On parlait tout à l'heure combien de personnes dans la compagnie, etc. Là, il y a près d'une dizaine de personnes qui ont travaillé sur ce spectacle. Et ils seront tous là ou représentés et présents ce soir-là. On a vraiment envie de se faire une vraie fête avec le public tourangeau qui nous suit depuis longtemps, parce que on a joué beaucoup en Touraine, on a joué près de 15-20 fois, je sais plus combien de fois on a joué en Touraine, on a joué beaucoup. Et on a vraiment des vrais gens qui nous suivent, qui ont vu le spectacle 2, 3, 4, même 6 fois. Enfin, c'est très étonnant.
Alors, on le rappelle à nos auditeurs qui aimeraient voir le spectacle et participer à cette 100e représentation. Ça va se passer à la salle, vous me dites si je me trompe, hein, à la salle Oesia de Notre-Dame-d'Oé,
ouais,
c'est ça?
Ouais, c'est ça, c'est à Oesia. Alors, c'est très simple. Si on a une voiture, c'est vraiment tout après l'autoroute. Ça, on y va vraiment en 5 minutes. C'est prudent de réserver sur oesia.fr. Je crois que c'est oesia.fr. C'est prudent de réserver vu les choses telles qu'elles se passent là. Et puis, c'est surtout un très bel équipement, un très bel outil pour ceux qui ne connaissent pas. Et on a vraiment hâte d'être dans cet écrin.
Et c'est à 20h30. Voilà, je pense qu'on a précisé à peu près ce qu'il fallait pour cette soirée-là. Merci en tout cas à vous, Stéphane.
Merci beaucoup.
Venu
merci
nous
de
présenter la. Eh ben de rien. J'ai essayé de faire au
et
mieux.
Alors moi, je vais vous poser une question sur la
Allez-y.
Première Guerre mondiale. Alors au hasard, donnez-moi en fait les deux généraux qui s'occupaient plus particulièrement de côté allemand et côté français de pouvoir développer la guerre. C'est-à-dire que qui décidait
regardez côté
pas
allemand
fiches,
hein. Ah non, je regarde pas les fiches, de toute façon j'aurais pas pu anticiper votre question. Côté allemand, il y avait deux généraux en tout cas qui m'ont marqué, il y a Ludendorff,
ouais,
et von Alkain, quelque chose comme ça.
Ouais, il y en a un autre.
Et
vous savez quoi,
celui-là me
si vous connaissez pas la réponse, mais vous l'aurez pendant la pièce vendredi.